essayer, aussi brièvement que possible, de renouer le fil de notre étude depuis notre dernière rencontre jusqu'au verset 12 de notre chapitre où nous nous étions arrêtés. Dans les versets 19 à 22 du chapitre 10, nous devons bien nous souvenir que nous avons là un résumé de toute l'épître relatif à la sacrificature céleste de Christ et à tout ce que nous avons maintenant en relation avec lui et en opposition avec ce qui était précaire, temporel pour les Juifs. Nos bénédictions sont célestes, elles sont éternelles et nous avons un accès ouvert, permanent, jusque dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu, un sanctuaire céleste. À partir du verset 23 jusqu'à la fin du chapitre 10, nous avons des exhortations fondées, présentées sur la base de tout ce que l'apôtre nous a enseigné dans cet épître, et que l'on peut résumer dans un fait bien précis et auquel un danger auquel les croyants auxquels l'apôtre s'adresse n'échappait pas, c'est-à-dire se lasser, se retirer et s'éloigner. L'apôtre leur montre les conséquences graves qui étaient attachées au fait de se détacher du christianisme pour retourner au judaïsme. Dans le chapitre 11, il va montrer que la foi a toujours été le mobile d'action de tous les croyants depuis le commencement. Chapitre très important que nous avons considéré avec beaucoup de profit sans doute. En commençant depuis la création où l'apôtre nous montre que la formation des mondes, chose incompréhensible à l'esprit de l'homme, nous la saisissons, nous la recevons par la foi. Et depuis cette origine, à travers tout l'Ancien Testament, jusqu'au Maccabée, l'apôtre va montrer que tous les croyants ont été mus par ce principe de foi, n'ayant rien en relation avec les choses visibles, mais poursuivant leur service, leur course, leur témoignage, à travers la foi qui saisit les choses invisibles. Et ce chapitre se termine en montrant qu'il s'agit pour nous d'une grande nuée de témoins qui nous ont précédés. Et en particulier, c'était un langage absolument parfaitement approprié à l'état des Juifs, à l'état des Hébreux auxquels l'apôtre s'adresse. Et il va montrer que ces croyants ne sont pas parvenus à la perfection et ils ne la posséderont pas sans nous, c'est-à-dire ils attendent le moment de la résurrection pour jouir pleinement de tous les résultats de l'œuvre de Christ que nous allons connaître, que nous allons posséder dès que nous partons de la terre, et eux étant ressuscités, nous jouirons alors de cet état de perfection, c'est-à-dire l'âme sauvée réunit un corps de gloire semblable à celui du Seigneur. Au-dessus de cette grande nuée de témoins, il y a celui qui brille d'un éclat tout particulier, qui a tout rencontré, qui a été en présence de toutes les oppositions, de tous les combats, et qui est arrivé au but, et qui connaît la joie de la foi couronnée au ciel, assis sur le trône de Dieu, c'est-à-dire Christ, le modèle parfait que l'apôtre place devant eux et devant nous pour nous donner du courage, car lui est arrivé au port, il est le précurseur de tous ceux qui, dans le chemin, traversant toutes sortes de peines, peuvent regarder vers lui et trouver en lui la force, le secours, le courage pour aller de l'avant à travers toutes les difficultés. Et c'est ainsi que nous abordons le verset 4 du chapitre 12, où l'apôtre va leur montrer qu'il y a un combat à livrer. Tout d'abord, dans le début du chapitre, nous avons le péché contre lequel nous avons à lutter, c'est-à-dire tous les objets de convoitise désirée par le cœur et contre lesquelles nous avons un combat livré, en même temps que rejeter tous les fardeaux qui nous empêchent de courir la course qui est devant nous. Dans le verset 4, il s'agit d'un autre combat. Ce n'est plus le péché en nous, mais le péché en dehors de nous. Épreuve que les croyants connaissaient dans ces jours-là et auxquelles nous ne pouvons pas nous soustraire. Mais ils n'avaient pas encore résisté jusqu'au sang. La chose allait sans doute survenir dans peu de temps. Mais ils n'avaient pas encore eu à donner leur vie pour sceller leur témoignage par la mort du martyr. Christ, lui, était allé jusque-là, avait manifesté la perfection de la foi comme en étant le chef, et il en avait manifesté toutes les vertus comme le consommateur et était arrivé au port. Maintenant, l'apôtre saisit cette occasion pour nous parler de la discipline, sujet qui nous a occupés pendant l'autre réunion, montrant que la discipline ou la formation à laquelle Dieu nous soumet à travers toutes les épreuves, toutes les oppositions que nous pouvons rencontrer, l'apôtre nous montre le but que Dieu poursuit et comment il agit envers nous pour nous discipliner, pour nous former, pour nous détacher des choses présentes et nous faire participer à sa sainteté, c'est-à-dire à ce caractère de Dieu entièrement séparé du mal. La discipline ou l'éducation à ce premier but en vue. Et elle est toujours dispensée en amour. Et les choses qui nous font souffrir aujourd'hui, qui nous éprouvent, qui nous meurtrissent, qui nous broient le cœur, elles contribuent à notre joie demain. Car l'épreuve à laquelle nous sommes soumis ne fournit pas les résultats tangibles tout de suite, mais plus tard, nous jouirons de tout ce que Dieu avait en vue pour nous, pour notre bien. Elle n'est pas un sujet de joie sans doute aujourd'hui, mais plus tard, dit l'apôtre, elle produit ce fruit paisible de la justice à ceux qui sont exercés par elle. Et nous l'avons dit, le premier but, c'est le verset 10, mais celui-ci nous discipline pour notre profit, afin que, c'est là, le but que Dieu poursuit, afin que nous participions à sa sainteté. Autrement dit, à la joie que l'âme éprouve dans un chemin de séparation du mal, comme on l'a comparé à quelqu'un qui jouit d'une bonne santé sans le savoir. Mais dès que cette santé nous est ôtée, eh bien, nous sommes tristes, nous sommes affligés. C'est le cas de celui qui, en dehors de ce chemin de sainteté, poursuit, hélas, un chemin d'indépendance, quel qu'il soit vis-à-vis de Dieu. Au contraire, ce chemin de la sainteté, de la séparation pratique du mal avec Dieu, pour Dieu, réalisant le caractère qu'il emprunte sur nous, entraîne pour nous, fait découler pour nous une joie grave, mais une joie réelle dans la communion avec Dieu. Au verset 12, que nous avons repris la lecture, nous avons maintenant un but en faveur de ceux qui nous entourent, en faveur d'autrui. C'est pourquoi, non pas je vous prie de redresser pour vous-même les genoux défaillants et les menacés, mais redressons. C'est un appel que l'apôtre adresse aux croyants en vue d'un service qu'ils ont à rendre, que nous avons à nous rendre les uns aux autres.
Alors, cette expression remarquable, c'est pourquoi, que l'on trouve, je crois, trois fois dans le chapitre 12. Au premier verset, c'est pourquoi la nuée de témoins qui nous entoure dirige les yeux de notre foi vers Christ, le modèle. Au verset 12, c'est pourquoi, c'est la conséquence de la discipline, eh bien, si nous sommes ainsi formés par Dieu pour être plus près du modèle Christ, pour être plus formés pour Dieu, eh bien, nous sommes à même, dans un chemin qui plaît à Dieu, de nous venir en aide les uns aux autres comme tous ensemble objet de la grâce. La dernière expression, c'est pourquoi, est au verset 28, lorsque la promesse de Dieu est faite, d'abord que Christ prendra son Église à lui, et ensuite que Dieu réglera les comptes du monde et détruira toute cette scène qui a été la scène dans laquelle l'esprit de l'homme s'est déployé depuis tant de siècles. Au verset 12, nous avons donc ces trois choses qui sont présentées comme désirables pour le bien de tous, pour notre marche individuelle et collective, d'abord redresser les mains lassées, les genoux défaillants, faire des sentiers droits à nos pieds, et si possible que ce qui est boiteux ne se dévoie pas, pas plus, mais se guérisse. Les mains sont en rapport avec les actes, les actions de l'homme, mais peut-être aussi en rapport avec la prière. Passage bien connu, qui a été souvent cité parmi nous, du psaume 141. C'est l'élévation des mains et l'offrande qui se présente à Dieu, comme l'offrande du soir, le parfum. Et lorsqu'on est dans un état moral défaillant, lorsqu'on est découragé, la première chose par laquelle Satan nous maintient dans ce découragement, c'est de nous faire faillir dans le service de la prière. Nous arrêtons de supplier. Notre âme ne se dirige pas naturellement vers Dieu. Il faut d'abord évidemment pour soi-même vivre dans la présence de Dieu. La prière est pour nous la respiration de notre âme. Sorte que si nous sommes ainsi en contact, en rapport, en communion avec le ciel, avec Dieu, avec Christ, naturellement nous pourrons aussi aider nos frères à ce que ce contact puisse se rétablir si, par suite d'un découragement, d'une épreuve qui surmonte notre force, eh bien, ce service de la prière a été interrompu. Les sentiers, les genoux défaillants, l'être moral ne peut plus se tenir lui-même debout. C'est par la grâce que nous sommes tenus debout. Celui qui est debout doit bien prendre garde à ne pas tomber. C'est par la foi et c'est par la grâce que nous sommes maintenus debout. Eh bien, les genoux défaillants doivent être fortifiés, sorte qu'à la fois avec des mains saintes qui s'élèvent vers Dieu, sans colère, sans raisonnement, une prière constante qui s'élève vers Dieu, avec l'énergie de la foi qui nous tient debout dans le chemin de la fidélité et de la justice pratique, eh bien alors nous pouvons, dans la fin du verset 13, aider à ce que ce qui est boiteux ne se dévoie pas, mais plutôt se guérisse. Que nos voix soient dirigées par Dieu lui-même. Cette voie du croyant, c'est un chemin qui, comme la lumière resplendissante, le chemin du juste. Proverbe 4, 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante qui va croissant jusqu'à ce que le plein jour soit établi. Il y a une espérance, un but, la lumière croît dans le tunnel que nous traversons et la pleine lumière est au bout du tunnel. C'est le ciel, c'est le moment de la délivrance. Dans l'intervalle, nous savons où nous allons. Et ce qui peut nous faire dévier du chemin, c'est un cœur partagé. C'est une absence pratique de séparation dans nos voies de toute forme de mal. On peut prendre un chemin de traverse, sauter du mauvais côté comme Démas. C'est l'amour du monde qui a fait perdre à Démas la fin de sa course. D'autres exemples nous montrent, par Paul en particulier, qu'il avait bien achevé sa course. Ce qui est caractéristique ici, c'est l'appel solennel à la sainteté pratique, en même temps à la jouissance effective de la grâce de Dieu. Rien n'humilie comme la grâce, et en même temps rien ne maintient nos cœurs dans la séparation pratique du monde, du mal, que la jouissance de la grâce de Dieu.
Cette exhortation revient souvent dans les épîtres, revêtir, manifester ce caractère de paix entre nous, la paix que Dieu place dans le cœur du croyant, la paix que nous avons de lui et avec lui, dont nous jouissons avec lui et dont il s'agit de manifester les faits, les fruits entre nous. Avec la sainteté, nous voulons, suite à ce que notre frère a dit, citer un passage ou deux pour montrer qu'il ne s'agit pas de la sainteté positionnelle comme on l'a appelé, que nous avons en Christ devant Dieu. Mais le côté pratique de cette sainteté, la marche du croyant dans la séparation du mal qui correspond à la position que nous occupons devant Dieu. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, on lit un passage qui montre bien qu'il s'agit de ce côté pratique. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 6, nous avons au verset 17, l'invitation de séparer du mal sous plusieurs formes, et la promesse, et moi je vous recevrai. Verset 18, « Et je vous serai pour père, et vous, vous me serez pour fils et pour fille, dit le Seigneur le Tout-Puissant. Ayons donc ces promesses, bien-aimés, purifions-nous nous-mêmes de toute souillure, de chair et d'esprit, achevant la sainteté dans la crainte de Dieu. » Nous comprenons la portée de ce passage, il est tout simple. Nous nous séparons du mal, et dans ce cas, Dieu nous reconnaît comme fils et comme fille. Nous en étions occupés il y a quelques jours avec des amis. Ce n'est pas le fait que Dieu renonce ou remette en question notre relation avec lui. Nous avions l'exemple devant nous, un père a un fils qui se conduit bien, il est tout heureux de dire « c'est mon fils ». Si ce fils ne répond pas à son attente, il n'aura pas l'hardiesse, la liberté de dire « c'est mon fils ». Et ça, il éprouvera quelques gênes à dire « il s'agit de mon fils ». Mais il ne pourra pas dire « ce n'est pas mon enfant ». La relation n'est pas remise en question par le fait que la marche fait défaut. Mais la jouissance du titre de fils et de fille, c'est-à-dire l'intelligence de la relation et la jouissance de celle-ci, évidemment, elle est perdue. C'est pourquoi nous sommes exhortés à achever la sainteté pratique, le côté pratique, la séparation du mal dans la crainte de Dieu. Dans la première aux Thessaloniciens, chapitre 4, il y a trois fois le mot sainteté qui ne laisse aucun doute sur le fait qu'il s'agit bien de l'application pratique dans notre marche. C'est ici au verset 3, la volonté de Dieu, votre sainteté, que vous vous absteniez de la fornication. Vous voyez comment les choses sont liées. Un peu plus loin, que chacun de vous sache au verset 4, fin du verset, posséder son propre vase en sainteté et en honneur, non dans la passion de la convoitise. Il s'agit bien de la sainteté pratique, pas la sainteté que Christ nous a acquise et selon laquelle Paul peut dire nous sommes rendus saints et agréables dans le bien-aimé. Nous répondons quant à notre position au caractère même de Dieu, caractère de sainteté. Rien ne nous manque sur ce plan. Nous sommes accomplis en Christ. Tout ce que requiert la nature de Dieu nous a été acquis par Christ et nous sommes saints devant Dieu. Mais maintenant, il s'agit de le montrer, de le manifester dans une marche pratique, en nous souvenant toujours que Dieu ne nous demande jamais une chose avant de nous l'avoir donnée. Dieu nous a donné la capacité maintenant de marcher dans la sainteté pratique. Il disait à son peuple dans les jours d'autrefois, « Soyez saints comme moi je suis saint ». Mais Israël n'avait pas la capacité, la force de réaliser cela. La loi n'a rien amené à la perfection. Mais aujourd'hui, la nouvelle nature que nous avons reçue de Dieu lors de notre conversion, c'est Christ en nous qui aime à accomplir ce qui répond à la pensée de Dieu, à la volonté de Dieu, autant que la vieille nature en moi, l'homme en Adam, désire faire la volonté, sa volonté dans la jouissance des convoitises charnelles. Encore un passage dans ce premier chapitre, dans ce chapitre 4 de la première aux Thessaloniciens, verset 7, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais dans la sainteté. Vous voyez trois versets dans lesquels la sainteté est présentée dans ce paragraphe du chapitre 4 de la première aux Thessaloniciens. La même chose que nous l'avons dans le chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux. Personne ne peut se méprendre et commettre l'erreur de penser qu'il s'agit d'une sainteté à acquérir pour parvenir à un état que Dieu va approuver, que Dieu va déclarer satisfaisant comme étant le prix des efforts que nous aurions fournis. Cette sainteté-là, personne ne peut la connaître. Et incapable, tous, qui que nous soyons, de nous élever à cette hauteur. Mais Dieu nous y place, et à nous maintenant, il va la réaliser pratiquement.
Chose, la paix d'abord et la sainteté ensuite. Ces deux choses sont assez différentes, mais indissolublement, inséparablement liées. L'expression est aussi forte que celle que Paul emploie en 2 Timothée 2, lorsque d'un côté il faut se retirer, ensuite fuir, et ensuite et enfin poursuivre. Pourquoi sommes-nous invités à poursuivre ? Bien, nous sommes invités à poursuivre les choses que nous n'avons pas ou que l'ennemi tente à nous ravir. Et puis nous sommes invités, comme bons soldats de Jésus-Christ, et cela est tout à fait incompréhensible pour la chair, à fuir devant les ennemis. Peut-être faut-il quelquefois tenir tête, mais là, il faut fuir les choses qui nous poursuivent, il faut rechercher avec ardeur avec la confiance et l'énergie de la foi les choses qui plaisent à Dieu. La première, c'est la paix, et ensuite la sainteté. Elles sont différentes, elles sont inséparablement liées. Dieu est le Dieu de paix, expression caractéristique des épîtres de Paul. On trouve l'expression au verset, chapitre 13, verset 20. Le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis. Le Dieu de paix bientôt brisera Satan sous nos pieds en Romains 16. Et lorsque nous avons exprimé nos prières et nos supplications à Dieu, nous avons la paix de Dieu qui comble nos cœurs et les remplit. Mais lorsque nous faisons les choses qui plaisent à Dieu, alors le Dieu de paix est avec nous. La paix est quelque chose que nous avons donc à nous appliquer, à maintenir. L'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'unité du corps de Christ est faite par l'œuvre de Christ à la croix, une fois pour toutes. Nous n'avons pas à la réaliser, elle est faite. Et son expression pratique, et combien cela est important dans la vie collective des assemblées, eh bien son expression pratique, c'est l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est une des acceptions de la figure précieuse de l'huile. L'huile qui est habituellement la figure de l'esprit. Qui est donné comme témoignage le plus puissant au monde pour qu'il croie. Avant qu'il voie, lorsque l'unité en gloire sera réalisée, il n'y aura plus de place pour croire. C'est un fruit qu'on doit rechercher. Le fruit de la justice dans la paix se sème pour ceux qui procurent la paix. Jacques 3, 18, c'est tout à fait la suite du verset 11 de Hébreux 12 qui nous avait occupés à la fin de notre dernier entretien. La paix est la prérogative des rachetés et de ceux qui pratiquement vivent dans la séparation du mal, dans le chemin de la justice pratique. Dans ces trois dernières parties d'Ésaïe, notre frère M. Finet l'a souvent rappelé parmi nous, où le centre c'est le chapitre 53. Les deux premières de ces trois parties se terminent par cette terrible injonction. Il n'y a point de paix pour les méchants. Eh bien le châtiment qui apporte la paix est tombé sur Christ pour que maintenant nous ayons la paix. La paix est par le sang de Christ, par le sang de sa croix, ayant fait la paix par le sang de sa croix par lui. Il n'y a point de paix pour les méchants, et maintenant c'est Christ qui est notre paix. Il nous a été fait sagesse de la part de Dieu, justice, sainteté et rédemption, il est aussi notre paix. Mais la paix est inséparablement liée ici à la sainteté. Il n'y a point de paix, point de communion pratique, effective parmi les saints, si nous ne marchons pas ensemble dans la séparation du mal. Le chemin de la lumière, c'est dans 1 Jean 1, eh bien nous avons communion les uns avec les autres si nous marchons dans la lumière, comme lui-même dans la lumière. Voilà l'expression pratique de la sainteté, non pas comme position en Christ, bien que la sainteté pratique en découle, mais c'est dans la lumière que nous marchons, alors naturellement la communion se réalise entre les saints et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché.
Se trouve dans un verset, résumé dans un verset de Marc 9, verset 51, « Ayez du sel en vous-même et soyez en paix entre vous. » Nous n'allons pas répéter ce que notre frère a dit, mais insister sur le fait que nous ne pouvons pas jouir de la paix au détriment des droits de Christ et dans une marche relâchée. Mais l'épître de Jean est bien formel sur ce point. Nous avons communion les uns avec les autres, nous jouissons de la paix pratique entre nous dans la mesure où nous marchons dans la lumière. Alors vous voyez comment le Seigneur parle dans Marc 9, cela est très exerçant. Et pour celui qui le dit d'abord, ayez du sel en vous-même. Le sel, c'est ce qui garantit de la corruption, ce qui empêche le mal, ce qui nous met à l'abri du mal. Et par conséquent, voilà le résultat, et soyez en paix entre vous. Mais pas soyez en paix, ayez du sel en vous-même. Il faut d'abord que le sel et son action, qu'il soit réalisé d'une manière certaine, pratique, et la conséquence inévitable et souhaitable d'ailleurs, c'est la paix entre nous. Mais pas à l'inverse. Il y a beaucoup de passages qui nous montrent qu'il en est bien ainsi. La sagesse d'en haut, par exemple, elle est premièrement pure, ensuite paisible. Il n'est pas dit que la sagesse d'en haut est pure, est paisible et ensuite pure, mais d'abord pure et ensuite plaisir. Nous ne pouvons pas inverser cette manière de voir de Dieu, et nous le savons bien, nous l'avons réalisé combien de fois, et nous le réalisons encore, tant de difficultés surgissent parmi nous, précisément par le fait que ce caractère de sainteté a été faussé, a été oublié, a été malmené, a été violenté.
Il faut bien se souvenir que la paix plaît à Dieu. Dieu désire que nous marchions dans la paix, les uns avec les autres. Matthieu 5, dans une des béatitudes du royaume, dans ses formes célestes ou terrestres, au verset 9, nous dit « Bienheureux ceux qui procurent la paix, car ce sont eux qui seront appelés fils de Dieu. »
L'un des éléments de la piété, la crainte, a-t-on dit, est la confiance. La confiance filiale de l'âme qui s'en remet à Dieu. Et la crainte, non pas la crainte de la férule d'un maître dur, pas la crainte de l'esclave devant son maître, mais la crainte, comme nous l'entendons, à l'égard de ceux que nous aimons et à qui nous aimons être agréables. Un époux, une épouse et vice-versa va craindre de poser un acte qui va troubler les relations si douces dont il jouit avec le conjoint. C'est ça la crainte de Dieu, non pas la crainte de celui qui redoute un châtiment, mais la crainte de porter atteinte à la douceur des relations dont nous avons le bonheur de jouir dans la lumière. C'est un passage, solennel. Il est bien évident que sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur, sans que ce caractère de sainteté, c'est-à-dire cette position de sainteté, lui était acquise. Mais l'apôtre dit ici les deux choses, sans laquelle, cette sainteté, nul ne verra le Seigneur. C'est un appel à la conscience, car si nous ne manifestons pas cette sainteté pratique, la question se pose, la possédons-nous quant à la position.
C'est aussi l'exemple d'un prince. L'homme noble se maintient par des choses nobles. Et il nous disait, voyez, le fils d'un roi, d'un prince, qu'on verrait au bord d'un ruisseau, ou bien dans une rue où la boue des égouts est encore à même le sol comme autrefois, lorsque nous n'avions pas des égouts dans les villages et dans les villes, et on verrait ce jeune prince jouer dans la boue. Eh bien, il est un prince, il a cette position de naissance, mais manifestement, il se vautre dans ce qui n'est pas de son rang. Et de la même manière, la sainteté, nous en avons d'ailleurs un verset clé quant à la sainteté positionnelle, nous avons un verset d'autre déjà été cité, pas avec la pensée d'ajouter, mais nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus faite une fois pour toutes. Voilà ce que nous sommes en position. Mais qu'est-ce que cela a coûté à Dieu? L'offrande du corps de Jésus. C'est pour cela que je suis fils de Dieu. J'ai donc par la grâce de Dieu, une nouvelle naissance. Je suis fils de prince. Nous avons été faits et moi et sacrificateur pour notre Dieu et Père, par l'offrande du corps de Jésus. Alors, est-ce que nous avons le droit de nous traîner dans la main? Non. Nous avons été ennoblis et en tant que nobles, nous devons nous maintenir par des choses nobles, c'est-à-dire des choses que Dieu nous propose.
C'est que nous lisons que nous devons poursuivre la paix avec tous. Il n'est pas dit, et la sainteté avec tous. Poursuivre la paix avec tous. C'est pas toujours si facile. Nous avons parfois des caractères tellement différents. Nous nous supportons difficilement. Poursuivre la paix avec tous. Bien sûr, nous pensons entre nous. Mais il y a tellement de caractères
opposés, comme les pierres sur le pectoral étaient sur la poitrine d'Aaron. Poursuivez la paix avec vous. Ça, il est tellement insupportable, ce frère. Poursuivez la paix avec tous. Quant à nos relations avec le monde, Romains 12 nous dit ceci. Ne rendant à personne mal pour mal, vous proposant ce qui est honnête devant tous les hommes, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, vivant en paix avec tous les hommes. D'abord avec tous. Entre vous, étant chacun des rachetés du Seigneur, et en paix, pour autant que cela dépend de nous, avec ceux du dehors, manifestant extérieurement la paix que Dieu a placée dans nos cœurs. La paix, la poursuivre, parce qu'elle risque toujours de nous échapper, mais la poursuivre avec tous, sans distinction. L'Ancien Testament, c'est celui d'Élisée. Il passait constamment dans un village qui s'appelle Sunem, où il y avait une maison dans laquelle il était accueilli, et se trouvait là une femme fidèle, une femme de foi. Alors elle dit à son mari, après avoir bien observé qui était celui qui était reçu régulièrement chez elle, elle dit à son mari, « Voici, nous citons 2 rois 4, « Voici, je connais que c'est un saint homme de Dieu. » La conduite d'Élisée manifestait ce caractère de sainteté, et cette femme rend ce témoignage, « Je connais que c'est un saint homme de Dieu. » On a dit ici, il y a un certain temps, que l'individu n'est jamais appelé saint, comme on le fait dans l'Église professante en parlant de Saint-Luc, de Saint-Marc, etc. Mais toujours sur un plan collectif. Et dans l'Épître de Pierre, et c'est la même chose sur la plume de l'apôtre Paul aussi, il est écrit à des croyants qui séjournent parmi les nations, qui ont été élus selon la préconnaissance de Dieu le Père en sainteté de l'Esprit, c'est-à-dire jouissant d'une mise à part opérée par l'Esprit Saint. Saints appelés, l'épître adressé à Corinthe, par exemple, est adressé à des saints appelés. L'épître aux Romains, la même chose. Ils sont rendus saints par l'appel de Dieu, c'est-à-dire mis à part dans une position pour Dieu, selon le caractère de Dieu. Je pense que nous en avons suffisamment dit sur ce caractère de sainteté. Chacun réalise bien qu'il y a donc un côté de position devant Dieu, intangible, parfait, et qu'à côté de cela, il y a le côté pratique, la sainteté à manifester dans notre chemin, dans nos voies. Le psaume 23 nous dit, en parlant de la brebis, qu'elle marche dans un chemin de justice à cause de son nom. Un chemin de justice ou de sainteté pratique à cause de son nom, c'est-à-dire en relation avec le nom qui est invoqué sur nous. Soyez saints comme moi je suis saint. La chose est répétée dans l'Épître de Pierre, mais nous l'avons dit tout à l'heure, c'est sur un tout autre terrain que celui de l'Ancien Testament. Nous avons maintenant, veillons de peur que, nous avons 3 dangers qui sont signalés par l'apôtre à partir du verset 15. Le premier, veillons de peur que quelqu'un ne manque de la grâce de Dieu. Car en effet, pour réaliser tout ce que nous entendons, tout ce que nous lisons, il est bien évident que nous n'avons pas de ressources ailleurs que dans la grâce de Dieu, pleine de bons fruits et qui produit en nous tous les fruits que le Seigneur désire voir en nous. La grâce de Dieu, de peur que quelqu'un ne manque de la grâce, n'oublie cette grâce, ne laisse de côté cette grâce dans ses effets, si précieux, si doux pour le cœur, la grâce qui nous fortifie, qui nous donne les ressources dont nous avons besoin pour accomplir ce que le Seigneur attend de nous. Que ferions-nous sans cette grâce de Dieu renouvelée chaque jour dans ses effets si précieux pour chacun des croyants? mettons en pratique l'exhortation du verset 14 de poursuivre la paix et la sainteté, que nous serons pratiquement gardés des dangers qui suivent, qui sont signalés par l'apôtre. D'abord, notre frère vient de lui dire manquer de la grâce. Ensuite, une racine d'amertume bourgeonne et souille. Ensuite, prendre la position grave de fornicateur ou de profane, avec l'exemple solennel d'Ésaü. Manquer de la grâce, c'est, dans une mesure pratique, oublier ce que nous étions, ce que nous sommes encore. Rien d'autre que les objets de grâce, rien d'humilié comme la jouissance de la grâce de Dieu. Cela nous rappelle notre état, nous ne nourrissons pas ce que nous étions et ce que nous avons fait, et nous sommes maintenus pratiquement dans une profonde humilité. Remarquez la manière dont le Seigneur a formé les deux disciples, ceux qui ont été les instruments pour écrire la plus grande partie des épîtres du Nouveau Testament, Paul et Pierre. Chacun à leur place ont été brisés à un moment de leur carrière et ont joui entièrement de la grâce de Christ. Rien d'autre, c'est la seule encre de leur âme. Pierre s'est toujours souvenu de ce moment. Il a rencontré Christ dans la nacelle. Il s'est reconnu comme homme pécheur. Mais le Pierre d'autrefois n'était pas encore brisé. Il a été brisé lorsqu'il a dû par trois fois renier avec imprécation et injure et jurement le maître que pourtant il aimait profondément. Il s'en est bien souvenu. Et pourtant, restauré, que dit-il ? Vous avez renié le Saint et le Juste, trois jours après. Eh bien, Paul, c'est la même chose. Il s'est souvenu de ce qu'il était comme un pur objet de la grâce de Dieu. Le Paul qui est sorti après les trois jours et trois nuits, lorsqu'il n'a mangé ni bu à Damas, était complètement autre. Qu'a-t-il dit dans toutes ses épîtres ? Il a mis en valeur, en évidence, la parfaite grâce de Dieu, la grâce de Christ, qu'il avait brisée et qu'il maintenait à sa place. Il fallait bien, de temps en temps, une écharde dans la chair pendant qu'il a porté, sans le dire, pendant 14 ans, pour le maintenir dans cet état nécessaire d'humiliation pratique. Mais que dit-il à Timothée ? Bien voilà, je suis un objet de la grâce de Dieu. Moi, autrefois, j'étais blasphémateur, persécuteur, outrageux. La grâce de Dieu envers moi n'a pas été vaine, est-il dit en 1 Corinthiens 15. Il est bien souhaitable que nous prenions, nous aussi, les uns et les autres, au pied du Christ, cette véritable place qui est la place à la fois de sécurité et de bénédiction. Jouir de la grâce. Qu'est-ce que la grâce, en fait ? C'est l'expression de l'amour de Dieu, la nature même insondable de l'être suprême, avec la lumière, adaptée à notre état. Pour nous pardonner, pour nous bénir, pour nous introduire, non sans la sainteté, sans laquelle nul verra le Seigneur, dans le lieu du repos et de la bénédiction. Il commence la première épître de Pierre, que notre frère a cité il y a quelques minutes, comment la grâce et la paix sont souhaitées à ceux à qui Pierre écrit. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc c'est bien dans la jouissance de la grâce de Dieu que se trouve le secret de notre paix.
Tout d'abord, dans le dernier chapitre du livre de l'Apocalypse, au verset 11, il est dit que celui qui est saint se sanctifie en eux. Et il est plus juste que le dernier verset de la parole qui dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints. On va le penser, si c'est dans la pensée de ce que je vois.
Le d'abord que notre frère cite à la fin du livre d'Apocalypse est extrêmement précieux. La grâce dont nous avons besoin, cette forme si douce, si précieuse de l'amour de Dieu que notre frère vient de définir devant nous, elle est assurée non seulement aux saints, mais à tous les saints. C'est le Saint-Esprit, a-t-on dit, qui prononce la dernière parole du livre. Si précieux que soit le dialogue entre Christ et son Église, ce n'est pas l'Église qui dit le dernier mot, ce n'est pas le Seigneur non plus, mais celui qui est venu du ciel pour accompagner l'Église jusqu'au bout et qui est le dispensateur de toutes les richesses de Dieu dans l'Assemblée. Que la grâce, c'est le Saint-Esprit, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints, sans en excepter aucun. Avec tous les saints, c'est-à-dire tous ceux qui ont été mis à part pour Dieu en vertu de l'œuvre de Christ. Quant au passage cité par notre feu au chapitre 22 de l'Apocalypse, il dit le dernier mot. Ce n'est pas le Seigneur non plus, mais celui qui est venu du ciel pour accompagner l'Église jusqu'au bout et qui est le dispensateur de toutes les richesses de Dieu dans l'Assemblée. Que la grâce, c'est le Saint-Esprit, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints, sans en accepter aucun. Avec tous les saints, c'est-à-dire tous ceux qui ont été mis à part pour Dieu en vertu de l'œuvre de Christ. Quant au passage cité par notre feu au chapitre 22 de l'Apocalypse, que celui qui est injuste commette encore l'injustice, que celui qui est souillé se souille encore, et on a dit, on peut voir William Kennedy, il y a un passage intéressant de son étude, les choses sont définitivement fixées. L'Église est au ciel, il reste sur la terre maintenant des populations qui ne peuvent plus rien modifier à leurs conditions. Alors que celui qui est saint, extérieurement, se sanctifie encore. Ce sera sans doute le cas du résidu. Et que celui qui est souillé se souille encore. Mais plus rien ne peut modifier la position de ceux qui sont en selle dès que l'Église est retournée au ciel et que le Saint-Esprit s'en est allé. Nous parlons évidemment dans le cadre de la chrétienté, dans le cadre de ceux qui étaient en relation avec Dieu. Nous ne parlons pas de l'évangile du royaume qui sera prêché dans les nations qui n'ont jamais entendu parler de moi, dit le Seigneur, nous ne mélangeons pas des choses que Dieu distingue soigneusement. Mais dans l'enceinte de la chrétienté, toute position, dès que nous partons au ciel, est définitivement fixée et plus rien ne peut y être changé. C'est pourquoi il semble que Jean nous dit, puisqu'il en est ainsi, on peut continuer chacun dans son chemin, plus rien ne peut le modifier.
On notera que l'Ancien Testament se termine sur le mot de malédiction. Le Nouveau Testament se termine sur le mot de la grâce. La grâce caractérise en fait cette position, ces écrits du Nouveau Testament, en ce que la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Sauveur. C'est le caractère essentiel de la dispensation dans laquelle nous vivons. Alors, l'Apocalypse est donné aux saints comme une révélation particulière pour un temps essentiel qui suivra le temps dans lequel nous vivons, et particulièrement le chapitre 22 qui a été cité par notre frère le montre bien, et ce n'est pas la position essentielle de l'Église maintenant. Actuellement, l'Église se tourne vers le monde en disant justement que celui qui veut prenne gratuitement de l'eau de la vie. Il est bien important de voir que Dans l'Apocalypse, l'esprit de prophétie est le témoignage de Jésus. L'esprit annonce, avertit, se présente comme dehors, comme considérant l'état de l'Église, la part de Christ, annonce comment être les jugements à venir, l'état du monde, le jugement des saints, de l'Église, du monde tout entier. Mais le caractère même de l'Église maintenant, de la dispensation des temps dans lesquels nous vivons, c'est la dispensation de la grâce. La grâce règne par la justice. Plus tard, la justice régnera dans les temps à venir, dans le règne millénaire et puis même dans l'état éternel. Maintenant, c'est la grâce qui prédomine, pour ainsi dire. Comme objet de grâce, nous annonçons la grâce aux autres. Nous en jouissons pour nous-mêmes, ayant joui de la grâce pour nous, nous annonçons à tous les hommes encore que c'est le temps de la saisir par la foi.
Danger auquel il a fait allusion, notre frère vient d'en parler d'ailleurs, de peur que quelques racines d'amertume au verset 15, bourgeonnant en haut, ne vous trouble et que par elle plusieurs ne soient souillés. C'est un passage qui est un peu difficile, il a souvent exercé la sagacité du lecteur et pour en saisir la portée, on a fait appel au passage de Deutéronome 29. Nous allons essayer de le situer dans son sens aussi simplement et aussi bien que nous pouvons. Dans le chapitre 29 du livre de Deutéronome, la chose mérite d'être considérée. Tout d'abord, au verset 14, nous le savons bien, à la fin du désert, au bout de 40 ans, il y a 39 ans et 10 mois que l'on a quitté le pays d'Égypte, et Moïse dit au verset 14, « Et ce n'est pas avec vous seulement que je fais cette alliance et ce serment, mais c'est avec celui qui est ici, qui se tient avec nous aujourd'hui devant l'Éternel. » Il y avait encore sans doute quelques-uns qui étaient encore vivants, de ceux du commencement, mais Moïse dit, c'est avec chacun de vous, même les plus jeunes, car au chapitre 5, nous avons la même expression, L'Éternel a fait, ce n'est pas avec nos pères que l'Éternel a fait cette alliance, mais avec nous qui sommes ici aujourd'hui. Chapitre 5, verset 3, pour montrer que cette alliance de l'Éternel, elle avait comme objet le peuple, pas seulement ceux qui étaient sortis d'Égypte, mais ceux qui étaient nés dans le désert, c'est avec vous, avec ceux qui sont présents aujourd'hui. Autrement dit, c'est pour nous aussi que les choses sont écrites maintenant comme elles l'ont été au temps où l'apôtre s'adressait aux Hébreux. Alors, que veut dire l'apôtre de peur que quelques racines d'amertume? Eh bien, à ceux qui se trouvaient à la fin de la traversée du désert, Moïse donne cet avertissement dans le chapitre 29 de Deutéronome qui a souvent été cité, et nous avons précisément le même de peur que au verset 18. Donc, il s'adresse à tous, pas seulement les plus anciens, mais avec tous ceux qui sont là aujourd'hui, ceux qui viennent d'entrer dans les rangs des adultes. C'est avec vous aujourd'hui que l'Éternel a affaire. Et de peur qu'il n'y ait parmi vous hommes ou femmes ou familles ou tribus dont le cœur ne se détourne aujourd'hui avec l'Éternel pour aller servir les dieux de ces nations. De peur qu'il n'y ait parmi vous une racine qui produise du poison ou de l'absinthe. Vous voyez, Moïse prévient cette tendance du cœur du peuple portée vers l'idolâtrie. Prenez bien garde. De peur qu'il y ait en vous, dans le cœur, une racine cachée qui va produire les fruits de l'idolâtrie, et ce sera un véritable poison qui va affecter non seulement celui qui se détourne, mais tous ceux qui ont contact avec lui, car le mal est contagieux. Et c'est la même chose ici. De peur qu'il n'y ait, dit-il, quelques racines d'amertume bourgeonnant en haut. Racine d'amertume, le mécontentement de se trouver dans les rangs des croyants et on éprouve un sentiment de lassitude, on convoite un chemin plus large et voilà ce chemin dans lequel on s'engage qui affecte ceux qui m'entourent. Personne ne peut dire « c'est mon affaire, je suis seulement concerné par telle et telle chose, cela ne regarde pas mes frères ». C'est un langage qui n'est pas du tout selon Dieu. Nous sommes membres les uns des autres et ce qui affecte un frère affecte tous ceux qui sont en relation avec lui. Sauf que plusieurs seront souillés par le fait que quelqu'un s'écarte, que quelqu'un retient des pensées dans son cœur qui sont une véritable racine d'amertume et un poison. Il y aura des effets et ces effets vont se produire non seulement pour lui, mais pour ceux qui l'entourent. Vous voyez le danger pour nous montrer que le mal est contagieux. Et que si je cesse de marcher dans un chemin que le Seigneur m'a tracé, je risque de produire un effet sur d'autres, les entraînant avec moi dans un mauvais chemin. De peur qu'il y ait quelques racines d'amertume bourgeonnant en haut, que vous soyez trompés, et que plusieurs par elles soient souillés. Très important. Le mal est contagieux. Si je me permets une conduite, un mal quelconque, eh bien, il y a un effet pour autrui. Cela, c'est inévitable.
Dans tout ce chapitre, Deutéronome 29, il est question du terrible danger pour Israël de l'idolâtrie. Israël est averti de la façon la plus solennelle par Moïse, le législateur, à ce moment, du danger que représentait l'idolâtrie pour eux. Qu'avait-il fait pendant les 40 ans du désert? Eh bien, nous savons, d'après Amos 5, le verset 25, qui est cité d'ailleurs en acte 7 par Étienne, « M'avez-vous offert des sacrifices et des offrandes dans le désert pendant 40 ans, maison d'Israël? Vous avez porté le tabernacle de votre Moloch, Elkan de vos images, l'étoile de votre Dieu, que vous vous êtes fait. Et je vous transporterai au-delà de Damas, dit l'Éternel, son nom. » Et le Dieu des armées. En fait, le peuple d'Israël était déjà tombé dans l'idolâtrie. Après Aaron, le veau d'or, tout de suite après, le peuple s'était déjà détourné de l'Éternel. C'était un mal rongeant, une véritable gangrène dans le cœur du peuple. Alors pour nous, quelle est l'application pratique? Eh bien, l'expression a été bien trop souvent rappelée par exemple dans les assemblées pour que nous l'oublions. Eh bien, gardez-vous des idoles. Les idoles, dans le cœur du chrétien, c'est tout ce qui n'est pas Christ. Tout ce qui ravit dans notre cœur la place qui n'a qu'à Christ lui-même, afin qu'en toute chose il tienne lui la première place. C'est le caractère qui est vu tout à l'heure au verset 16 sous le caractère de fornication. Fornication, c'est l'infidélité peut-être dans les relations de la famille, la relation du mariage, mais spirituellement, ce que Dieu a reproché à son peuple, c'est de l'avoir abandonné. Et cela dès le désert. Jérémie 2, je crois. Je me souviens de toi, ta grâce des fiançailles, l'amour dont tu m'aimais lorsque Israël était saint, les prémices des fruits. Eh bien, tu m'as abandonné, toi. Moi qui étais la source des eaux vives, tu t'es cherché des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Voilà ce que l'Église certainement a fait dans son ensemble. Dans quelle mesure ne nous sommes-nous pas laissés aller à de telles choses? C'est évidemment la parole qui sonde, qui doit nous faire revenir à ce que nous avons pu laisser introduire dans nos voix et dans nos cœurs, qui n'est pas Christ lui-même. C'est en fait, si l'un ou l'autre manque de vigilance, l'ensemble en supporte le dommage, de peur que. Il me semble qu'on peut rapprocher ce qui est dit dans le Cantique des Cantiques en rapport avec les petits renards qui ravagent les vignes. Et c'est dans le, à la fin du Cantique, non, au verset 15 du chapitre 2. « Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. » Des choses qui, dans les assemblées, paraissent de peu d'importance, hein, on manque de vigilance. Je ne connais pas assez les assemblées de Belgique pour signaler le danger. En tout cas, je connais bien la nôtre et les assemblées de France pour dire que de parler les uns des autres, comme souvent nous le faisons, propager à la vitesse de la lumière les nouvelles, particulièrement les mauvaises, voilà les petits renards qui sont en train de ravager les assemblées. Nous avons à être extrêmement prudents. Ceci peut donner lieu justement à cette racine d'amertume qui souille plusieurs. Nous avons à veiller. S'il y a des exercices, gardons-les pour nous-mêmes et parlons-en à Dieu, justement, avec une élévation des mains, de la prière dont nous avons parlé tout à l'heure.
Ce produit par un relâchement est d'autant plus grave qu'il provient de quelqu'un qui est en vue. À l'ange de l'Assemblée écrit, il est bien évident qu'il y a des responsabilités différentes. Et dans l'Ancien Testament, nous en avons un exemple saisissant à l'égard d'Aaron et de ses fils. C'est assez rare que l'Éternel s'adresse à Aaron et à ses fils, sans y inclure Moïse. Mais pour montrer l'importance du fait, dans Nombre 18, chacun pourra lire ce paragraphe, l'Éternel s'adresse à Aaron et à ses fils. Et il leur dit que toi et tes fils, vous porterez l'iniquité du sanctuaire. C'est-à-dire que la proximité dans laquelle se trouvait Aaron avec ses fils de l'Éternel, servant de trait d'union entre le peuple et l'Éternel, l'iniquité du sanctuaire tombait, se plaçait sur Aaron et sur ses fils. Ils étaient en position de privilège particulièrement élevée, et ce qui concernait le camp retombait sur eux. À l'ange de l'Assemblée écrite. D'où, nous retenons bien cela, nous le savons bien, d'où les exhortations si pressantes des apôtres, par exemple Jean, qui nous dira de peur que nous ne soyons couverts de lui, couverts de honte de par lui à sa venue. Et Pierre dira, je m'empresse, je m'efforce à vous rappeler ces choses pendant que je suis encore sur la scène. L'empressement que les apôtres apportent, Paul également, à ce que les saints se réveillent, marchent d'une façon convenable vis-à-vis de Dieu, étant donné que leur responsabilité est engagée. L'autre exemple est celui des fornicateurs ou profanes, qui pour un seul mets a vendu son droit d'aînesse. Les croyants auxquels l'apôtre s'adresse jouissaient d'un droit d'aînesse incontestable. Ils faisaient partie des croyants desquels il est dit, c'est une sorte de prémisse des créatures de Dieu, épître de Jacques. Et nous le verrons plus loin dans le paragraphe qui va suivre. Donc, un danger, c'était celui de se détourner et de devenir profane comme Ésaü et en même temps fornicateur. Autrement dit, nouer des relations en dehors du lien du mariage que l'Éternel avait établi avec son peuple et lien qui est celui dans lequel nous nous trouvons, de même que les croyants hébreux. C'était donc profaner ce que le Seigneur leur avait confié entre leurs mains comme position, et en même temps, c'était un péché de fornication, c'est-à-dire portant atteinte au lien que Dieu avait établi avec eux en se tournant vers le monde et en établissant un autre lien avec le monde, fornicateur ou profane, comme Ésaü qui jouissait de ce droit de premier-né et qui n'en a pas tenu compte, qui l'a considéré comme une chose vulgaire, une chose de peu de valeur. C'était donc le danger qui est signalé ici, un troisième danger, de ressembler à Ésaü pour un seul mais, pour une jouissance passagère, une jouissance banale, une jouissance vulgaire et passagère. Il a vendu le droit d'aînesse, c'est-à-dire ce qui relevait d'une bénédiction d'un prix inestimable et qu'il avait considéré comme rien. Pour une seule chose, car après avoir mangé le roux, puisqu'on l'appelait Edom, roux, du fait qu'il avait vu ce brouet qui cuisait, qui était roux, il a dit « Donne-moi de ce roux pour la satisfaction d'une convoitise passagère, la satisfaction d'un besoin qui s'est renouvelé bientôt. » Il a vendu ce qu'il avait de plus précieux, ce que Dieu lui donnait comme bénédiction en
haï Ésaü. Dieu, auparavant, au début, n'a jamais dit qu'il avait haï Ésaü. Il l'a dit à la fin, il a haï Ésaü à cause de la conduite d'Ésaü. Cette conduite ensuite est tombée de... que de Hébreux 12, avec les trois prenez garde de Philippiens 3. Je lis juste les passages comme sujet de méditation pour chacun. Au verset 15 de Hébreux 12, nous avons donc de peur que quelqu'un ne manque de la grâce de Dieu. Premier danger, de peur que quelque racine d'amertume. Deuxième, et de peur que quelque fornicateur ou profane comme Ésaü. Troisième danger. Trois dangers sont considérés aussi de la part de Paul en prison aux Philippiens. Philippiens 3, réjouissez-vous dans le Seigneur, dans vous écrire la même chose n'est pas pénible pour moi, c'est votre sûreté. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde à la concision. On peut penser que l'ordre de ces trois dangers est le même dans les deux passages. C'est un ordre qui est d'abord moral, ensuite qui est doctrinal, et troisièmement d'ordre religieux.
Bon, tout à l'heure, il fallait donc veiller pour maintenir ce qui a été placé devant les croyants, de peur que, le premier au verset 15, de peur que, au verset 16, et le troisième, de peur que, au verset 15, il y en a deux, et au verset 16. On revient un instant sur le cas d'Ésaü, car ce passage a été souvent difficile pour plusieurs. Il ne trouva pas lieu à la repentance. On a abordé tout à l'heure un mot d'explication et on peut envisager la déclaration de l'apôtre sous deux éclairages différents. Ne trouva pas lieu à la repentance, c'est-à-dire, malgré ses larmes, eh bien, il n'a pas pu se repentir dans le sens précisé par notre frère tout à l'heure, c'est-à-dire le fruit d'un travail de Dieu dans son âme. L'autre côté ne trouva pas lieu à la repentance, c'est-à-dire que son père n'est pas revenu sur la bénédiction qu'il avait donnée à Jacob. Ésaü a pleuré, n'a plus que cette seule bénédiction, mon père. Il aurait voulu que le père revienne, se repente sur ce qu'il venait d'opérer, ce qu'il venait de donner à Jacob, pour revenir en arrière, et selon la première intention d'Isaac, nous l'oublions pas, Isaac avait bien l'intention de bénir Ésaü. Quelle découverte pour lui, qu'il a rempli d'effroi quand il a vu qu'il allait se tromper à ce point sur l'intention de Dieu. Il ne trouva donc pas lieu à sa repentance quant à lui, ou d'autre part, quant à son père qui n'a pas voulu changer les dispositions qui venaient d'être prises. De toute manière, le résultat est le même, il fut rejeté. C'est un cas tragique, c'est un cas solennel que celui d'Ésaü. Il a été élevé dans les mêmes conditions que Jacob. Pendant 15 ans, ils se sont trouvés dans les mêmes conditions auprès de Abraham, leur grand-père, et d'Isaac, leur père. Et l'un est un profane et un fornicateur, et l'autre, malgré ses voies obliques, nous parlons de Jacob, malgré ses défauts, il est de la bénédiction, et Dieu, nous l'avons entendu, l'a tenu pour agréable, et il pourra dire à la fin de l'histoire de l'Ancien Testament, j'ai aimé Jacob, non pas en raison de ses qualités, il n'en possédait guère, mais en raison de ce que son cœur avait retenu quant au prix de la bénédiction que Dieu voulait lui donner. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü en raison de sa conduite qui est celle qui découle de son attitude dans le cas qui nous est présenté dans le chapitre 12, c'est-à-dire au moment où, dédaignant le droit d'aînesse, il a préféré la satisfaction d'une convoitise passagère, nous dirions d'une gloutonnerie qui le poussait à solliciter son frère Jacob de lui donner ce mets, et il a vendu son droit d'aînesse, fornicateur et profane. Maintenant, verset 18, on aborde le dernier paragraphe de ce chapitre. L'apôtre dit, en relation avec tout ce qui précède, vous avez la ressource d'être sur le terrain de la grâce, parce que vous n'êtes pas venu à la montagne qui peut être touchée. Et il va donner les dispositions qui sont celles trouvées dans le chapitre 19 et 20 du livre de l'Exode. L'apôtre va nous donner une description saisissante de ce qui s'est passé sur la montagne de Sinaï lorsque l'Éternel est descendu en feu sur elle et qu'il a appelé Moïse pour lui donner la loi, les 10 commandements et toutes les ordonnances qui ont suivi. C'est un moment solennel de l'histoire d'Israël. Jusque-là, nous le savons bien, il avait été conduit par la grâce de Dieu, mais méconnaissant ce qu'il était en lui-même et n'ayant pas apprécié cette grâce de Dieu, il peut dire tout à coup, bien, tout ce que l'Éternel va nous dire, nous allons le faire. Nous voulons mériter la bénédiction. Nous voulons, nous, faire quelque chose. Nous avons été les objets de la grâce de Dieu jusqu'à maintenant qui nous a portés comme sur des ailes d'aigle. Mais nous désirons maintenant faire quelque chose. Nous voulons avoir une certaine part dans notre bénédiction. Nous voulons y apporter notre contribution. Alors l'Éternel dit, eh bien, tu leur diras tout ce que je vais te commander, et l'Éternel se retire dans l'obscurité de son sanctuaire. Hélas, la mise à l'épreuve du peuple va commencer, nous le savons bien, et ils vont apprendre tout de suite que notre Dieu est un feu consumant. Car le rappel de ce qui s'est passé sur la montagne est saisissant. Dans l'Ancien Testament, sans anticiper, nous ne voyons pas que Moïse a tremblé, que Moïse est rempli de crainte ou de désarroi. Nous le trouvons là comme le représentant du peuple et comme celui qui approche Dieu de façon très intime pour être le témoin et le maillon entre Dieu et son peuple. Nous ne trouvons pas Moïse ébranlé dans le livre de l'Exode. Mais ici, l'Esprit de Dieu nous ouvre le cœur de Moïse, la poitrine de Moïse, et nous assistons à ce qui le remplissait, c'est-à-dire il était complètement effrayé, j'étais épouvanté, dit-il, et tout tremblant, en présence du déploiement de cette manifestation de la sainteté de Dieu liée à ce feu dévorant qui ne peut en aucune manière se joindre, s'unir au mal quel qu'il soit.
De pouvoir avancer dans l'étude de l'Épître, désirons quand même revenir un court moment sur l'expression de la parole qui est donnée ici. Il est parlé d'Ésaü. Il est dit, plus tard, désirant hériter de la bénédiction. Et Genèse, fin du chapitre 25, dit, et Ésaü méprisa son droit d'aînesse. Dans ce passage, il est dit que Ésaü était fatigué. Et nous désirons placer ces deux choses sur le cœur de nos enfants. D'une manière imagée, chers enfants qui êtes nés dans une famille chrétienne, est-ce que, en quelque sorte, vous n'avez pas comme un droit d'aînesse? C'est un privilège. On n'est pas sauvé parce que son père ou sa mère est sauvé. Mais c'est un grand privilège de naître dans une famille où la grâce de Dieu est intervenue, où la grâce de Dieu est connue. Alors, il arrive un moment dans la vie où il peut se passer quelque chose comme dans celle d'Ésaü. Il était fatigué. Et Ésaü va trouver des motifs. Il va accuser Jacob. Il dira plus loin qu'il a agi avec lui, c'est vrai, mais chapitre 27, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père, et avant cela, verset 35, merci. Et il dit, ton père est venu avec Luz et a pris ta bénédiction. Et il dit, n'est-ce pas qu'on a appelé son nom Jacob? Il m'a supplanté ces deux fois. Il a pris mon droit d'aînesse. En quelque sorte, c'était vrai. Mais ce qui est grave pour Ésaü, c'est qu'il a méprisé son droit d'aînesse. Comme on l'a rappelé, pour une satisfaction tout à fait passagère, grossière. Alors, je me garde chez Ésaü. Puis il y a eu un plus tard dans la vie. Mais il y a des tard, qui sont comme des jamais. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. La pensée de l'ennemi, c'est plus tard. Plus tard. Maintenant, j'ai quand même un certain âge, je suis jeune, je vois beaucoup d'autres jeunes autour de moi qui veulent, comme on dit aujourd'hui, profiter de la vie, quand même s'amuser un peu, quand même se distraire un peu, et il arrive qu'on est fatigué et on maîtrise son droit de messe. Et puis plus tard, on dit, j'ai quand même perdu une grande bénédiction. Et cette bénédiction, Ésaü l'a recherchée avec larmes. Il a pleuré près de son père. Mais c'était trop tard. Isaac n'a pas trouvé Dieu à l'abondance et il n'a pas accordé la bénédiction qu'en quelque sorte Ésaü avait méprisée. Alors, chers amis, s'il m'est permis de comparer à un doigt d'aînesse le fait d'être né dans une famille chrétienne, ne le méprisons jamais. Nous vous en supplions. Prenons-le, non pas avec orgueil, parce que c'est notre piège, mais prenons-le comme une grâce de Dieu. Et ne méprisons jamais notre doigt d'aînesse, mais recherchons la bénédiction. Et je citerai pour terminer un passage de Proverbe, la bénédiction de l'Éternel est ce qui enrichit et qui ajoute au culte.
La position de Moïse dans l'Ancien Testament, notre frère vient de le rappeler, Moïse est le législateur et se présente comme représentant Dieu devant le peuple, il se présente sur la montagne au commandement de Dieu. Nous voyons l'exercice intérieur de Moïse dans le passage de Hébreux. Nous étions arrêtés longuement dans les entretiens précédents sur Daniel, sur le lien précieux qu'il y avait entre le ministère de Daniel, sa prière, sa supplication au chapitre 9 de son livre, les résultats pour lui-même. Il reste son teint frais changé en corruption, il reste effondré, écrasé, point de force en lui. Il n'y a pas un être moral et le ministère en dehors. Les deux forment un tout. Dans le cas de Paul, par exemple, nous voyons combien le ministère qu'il exerçait de la part du Seigneur envers les saints et les assemblées avait d'abord un effet sur lui-même. On ne prend pas les choses de l'extérieur sans action immédiate sur soi-même, ou alors le ministère n'a pas de fruit. On voit la même pensée dans Élie. Si l'on compare d'un côté ce que Élie dit de la part de Dieu avec solennité et puissance à cause du peuple apostat, eh bien il n'y aura pas de pluie, ni de pluie, ni de rosée, sinon à ma parole. Et nous le voyons dans l'épître de Jacques, c'est l'autre côté, c'est le côté intérieur. Il prie avec instance qu'il ne plût pas, et il n'a pas plu. Il pria de nouveau, et de nouveau la terre produisit son fruit, et la pluie descend de nouveau sur la terre. Il y a toujours un lien dans chaque croyant entre ce que nous sommes, l'état de notre cœur, et ce que nous pouvons faire, ce que nous sommes appelés à faire de la part du Seigneur Jésus.
Évident et particulièrement significatif entre une montagne qui peut être touchée. En effet, la montagne de Sinaï est sur la terre, elle peut être touchée, et une montagne spirituelle qui n'a rien de terrestre, qui n'a rien de matériel. Il n'y a pas de contradiction dans l'Écriture, il est bien clair qu'au jour de Moïse, personne ne pouvait approcher de la montagne. Même si une bête touche la montagne, disait l'Éternel, elle sera lapidée. Et il fallait mettre des barrières autour de la montagne, et Moïse seul est monté comme roi en Jérusalem, selon le titre qui lui est donné, Moïse seul est monté sur la montagne. Plus tard, sans entrer dans des détails, en raison du sang qui a été répandu, il y aura 70 personnes sur la montagne. Moïse, Aaron, ses fils, et les anciens pourront monter sur la montagne. Mais au moment où nous nous trouvons maintenant, au moment où l'Éternel va faire entendre sa voix à Moïse et lui donner la loi, il n'y a personne qui pouvait approcher de la montagne sous peine de mort. L'Éternel est un feu consumant et le peuple devra dire que l'Éternel ne parle plus avec nous car nous allons mourir. Si l'Éternel prononce encore quelques mots, nous allons tous mourir. Deutéronome 5. Alors l'Éternel était donc là sur cette montagne et elle est caractérisée par le feu. À la montagne qui peut être touchée, disons-nous, et au feu, ni au feu brûlant. Au feu brûlant qui était tout en feu. Sans être long, on peut peut-être indiquer, et pour les jeunes lecteurs cela et de nature désintéressée, que le feu est vu 10 fois dans l'Ancien Testament, et 10 fois en jugement sur la terre. Nous allons citer rapidement les cas, mais chacun pourra les chercher, les considérer. Il est d'abord tombé sur Sodome et Gomorre, premier cas où le feu est descendu du ciel. Nous verrons que dans le Nouveau Testament, nous ne trouvons plus du tout le feu descendu du ciel, pour ne pas l'omettre. Les disciples disent au Seigneur, Jean, veux-tu que nous fassions descendre le feu du ciel comme l'a fait Élie, puisque ces Samaritains ne veulent pas te recevoir. Ils sont bien dignes d'être grillés par le feu. Comment refuser ta présence et tout ce que tu es en grâce pour le Seigneur va leur dire, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. L'esprit du Nouveau Testament est évidemment tout différent de l'esprit de l'Ancien Testament. Mais, premier cas, Sodome et Gomorre passés par le feu. Deuxième cas, le feu qui se trouve sur la montagne de Sinaï, l'Éternel est descendu en feu sur elle. Exode 19. Le Seigneur aussi, l'Éternel, a consumé l'Holocauste en Lévitique 9. Ce n'est pas dans ce cas en jugement, c'est en appréciation, en approbation du sacrifice qui a été offert, en vertu duquel les relations de l'Éternel avec son peuple sont assurées. Le quatrième cas, c'est celui, précisément en Lévitique 10, le feu qui a brûlé, qui a grillé, qui a consumé les deux fils d'Aaron qui présentaient un feu étranger. Un feu qui n'avait pas été pris sur l'autel, mais un feu qu'ils avaient allumé eux-mêmes. L'Éternel est descendu, le feu de l'Éternel est descendu et les a jugés, les a grillés au feu. Il est descendu aussi en nombre 11 dans le camp d'Israël, puisque cet endroit a été appelé Tabéra ou incendie. En raison des convoitises du peuple et de sa conduite, le feu est descendu du ciel et commençait à consumer ce peuple de telle manière qu'épouvantés, ils ont appelé ce nom Tabéra ou à la note incendie. Le sixième cas, c'est sur Corée et tous ses adhérents. Le feu est descendu du ciel, la terre a ouvert sa bouche et les voilà engloutis, voilà jugés par le feu du ciel. Nous avons un septième cas, c'est dans l'ère d'Ornan, le Jébusien. Là, c'est aussi le feu qui descend du ciel, mais nous ne pourrions pas dire que c'est en jugement. Quoique c'est une image du feu sous lequel, c'est une image du jugement sous lequel la sainte victime allait être exposée. Le feu descendu du ciel dans l'ère d'Ornan pour consumer le sacrifice, et David, voyant cette scène, pourra dire « Ah, maintenant j'ai compris, c'est ici la maison de l'Éternel, c'est ici l'autel de l'Éternel, non plus l'autel qui était dressé dans le tabernacle. » David était épouvanté à la pensée de retourner vers cet autel. Mais là où la miséricorde s'est glorifiée vis-à-vis du jugement, jugement tombé sur une victime qui permettait à l'Éternel de faire grâce, David dit « Voilà le fondement de la maison. » C'est donc le septième cas. Le huitième cas, c'est quand le feu descend dans le temple de Salomon. Aussi, pour l'approbation du sacrifice qui s'y trouve, mais en même temps, le côté inverse, Dieu montre bien qu'il est un feu consumant et que s'il approuve maintenant les relations qui sont établies entre le peuple et lui, d'un autre côté, le même feu sera envoyé en jugement. Le feu est encore descendu une neuvième fois dans le premier livre des Rois, chapitre 18. Le feu est venu consumer sur l'autel, malgré toute l'eau répandue, le sacrifice qu'Élie offrait pour montrer au peuple que c'était bien l'Éternel qui était Elohim, parce que le peuple ne savait plus qui était l'Éternel. Est-ce Baal qui est Elohim ou est-ce l'Éternel? Il ne le savait plus. 100 ans après le premier cas que nous venons de, le dernier cas que nous venons de citer, 100 ans après que le feu était descendu dans le temple de Salomon et que la gloire était venue remplir cette maison, 100 ans plus tard, le peuple ne sait plus si c'est Baal ou si c'est l'Éternel qui est le vrai Dieu ou Elohim. Alors le feu descend du ciel, la victime est consumée, et le peuple, devant ce témoignage éclatant de la présence de Dieu, dira « c'est l'Éternel qui est Dieu ». Le dernier cas, c'est Élie, prophète de jugement. « Je suis un homme de Dieu, et bien que le feu descende du ciel et te consume, toi et ta cinquantaine ». Et à l'instant même, ce capitaine audacieux et sa cinquantaine sont passés par le feu. 10 cas, il y en a peut-être d'autres si on veut chercher, mais en tout cas nous trouvons 10 cas où le feu descend du ciel. Il y a 10 cas dans le Nouveau Testament où il est question du feu. Mais plus jamais le feu n'est descendu du ciel pendant la période de la grâce. Il faut bien retenir cela. Nous citons rapidement, c'est le premier cas, c'est en Matthieu 3, l'Esprit Saint va descendre du ciel pour vous baptiser et en même temps de feu, dit le Seigneur Jésus. C'est-à-dire, c'est Jean-Baptiste qui dit cela, dans Matthieu et dans Luc. Vous serez baptisés de l'Esprit Saint. Lui vous baptisera de l'Esprit Saint et de feu. Le feu, évidemment, c'est un symbole du jugement. Et heureusement qu'aujourd'hui, nous l'avons souvent entendu, que Dieu ne répond pas aux demandes qui lui sont adressées d'être à nouveau baptisé comme au commencement et d'un baptême de feu, comme si c'était une énergie qui doit nous remplir. Si Dieu répondait à cette demande, ceux qui la formulent seraient donc instantanément grillés par le feu. Le Seigneur descendra tout à l'heure en flamme de feu. Mais dans Acte 2, nous ne trouvons plus qu'il est question du feu. Vous serez baptisés de l'Esprit Saint dans peu de jours. Mais le Seigneur n'ajoute plus dans ce cas, et de feu. Le feu, c'est 2 Thessaloniciens 1, quand le Seigneur va descendre en flamme de feu, ce sera le baptême de feu, c'est-à-dire baptisé, être immergé. Le monde sera enveloppé par le feu du jugement. Premier cas, baptême de feu. Le deuxième cas, c'est dans Marc 9, verset 49. Chacun sera salé de sel, chacun sera, tout sacrifice sera, ce verset bien connu, tout sacrifice sera, comment était-il dit là, chacun sera salé de feu, merci beaucoup, ma mémoire est défaillante. Dans le troisième cas, il s'agit de Acte 2, le don du Saint-Esprit est descendu sur eux et en même temps des langues de feu. Pour montrer que ce n'est plus sous la forme d'une colombe que le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, mais en langue de feu, en langue divisée, chacun parlant d'une langue particulière. Mais en même temps, cette langue est de feu pour montrer que le Saint-Esprit ne peut pas s'identifier avec le mal, quel qu'il soit. Exemple, Ananias et Saphira. Le quatrième cas, c'est le travail de chacun qui sera manifesté par le feu. 1 Corinthiens 4. Le feu de l'épreuve dans 1 Pierre 4, 12. Ne trouvez pas étrange, dit l'apôtre, que le feu de l'épreuve soit au milieu de vous. Les croyants pouvaient se dire à ce moment-là, c'est étrange que nous souffrions. Nous sommes devenus croyants, nous avons obéi à la parole de Dieu, nous nous sommes tournés vers le Seigneur. Et voilà que depuis que nous sommes convertis, que nous sommes devenus des croyants, ayant quitté l'enceinte juive que Dieu rejette désormais, tout est contre nous. Pierre dit, oui, vous pouvez penser que c'est étrange, mais ce n'est pas étrange, le feu ardent qui est venu pour votre épreuve, et nous avons vu précisément dans notre chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux, que c'est une discipline à laquelle tous nous sommes soumis, et pour notre bien. Après l'Épître de Pierre, nous avons la deuxième Épître aux Thessaloniciens, c'est la vengeance à l'apparition de Thessaloniciens, c'est le sixième cas. Dans le septième cas, c'est en 2 Pierre 3, verset 7, c'est le jugement des cieux et de la terre. À la fin du millénium, la terre de maintenant et les cieux sont réservés pour le jugement. Ils seront passés par le feu. 2 Pierre 3, verset 7. Le sixième cas, c'est en Apocalypse 17, c'est le jugement de Babylone. Elle sera brûlée au feu. Ne restera rien de sa splendeur, de ses richesses, de ses ponts, et elle sera brûlée au feu précisément par ceux qui ont commis fornication avec elle. Jugement terrible qui attend Babylone, c'est-à-dire l'église multitude prostituée, qui s'est prostituée au roi de la terre pour jouir de la domination dans ce monde, au lieu de réaliser son caractère d'étrangère. Mais nous savons tous cela. Le neuvième cas est en Apocalypse 20. C'est la dernière révolte après le millénium. Le feu va descendre du ciel pour consumer les derniers adversaires. Et enfin, le dixième cas, c'est Apocalypse 20, verset 14. Citation que chacun a à la mémoire sans doute, à l'esprit. C'est une scène, une vision extraordinairement solennelle. C'est l'étang de feu. C'est l'étang de feu dans lequel seront précipités tous ceux qui ont refusé la grâce de Dieu. Donc vous n'êtes pas venu à la montagne qui peut être touchée, ni au feu brûlant qui est descendu sur la montagne. C'est la dernière révolte après le millénium. Le feu va descendre du ciel pour consumer les derniers adversaires. Et enfin, le dixième cas, c'est Apocalypse 20, verset 14. Citation que chacun a à la mémoire sans doute, à l'esprit. C'est une scène, une vision extraordinairement solennelle. c'est l'étang de feu. C'est l'étang de feu dans lequel seront précipités tous ceux qui ont refusé la grâce de Dieu. Donc vous n'êtes pas venu à la montagne qui peut être touchée, ni au feu brûlant qui est descendu sur la montagne, Dieu est descendu en feu sur elle. Et ainsi, il y a l'obscurité, les ténèbres, mais nous n'allons pas continuer.
Montagne d'Horeb, où la loi a été donnée comme règle pour le peuple, et comme condition de sa bénédiction sur le terrain, sur le principe de l'obéissance. Deux autres montagnes sont signalées sur ce terrain-là, et entre les deux, il y avait la ville de Sichem. D'un côté, la montagne de Garizim, de l'autre côté, le mont Ebal. Six tribus sont tenues à un moment, au moment de la fin du Deutéronome, et ensuite en Josué 8. C'est là que se trouvait d'ailleurs l'autel qui devait être bâti pour Josué, par Josué. Six tribus sont tenues sur la montagne d'Ebal, et les malédictions pour ceux qui ne répondaient pas aux ordonnances de la loi sont données dans tous les détails. D'ailleurs, faillir sur un commandement rendait coupable en rapport avec toute la loi tout entière. Les six autres tribus sont tenues sur Garizim, mais nous savons que la bénédiction n'est pas donné dans les détails. Le seul homme, l'homme Christ Jésus, qui a répondu aux ordonnances de la loi, la loi était écrite dans ses entrailles, comme les tables de la loi étaient à l'intérieur de l'arche, aurait pu recevoir de la part de Dieu, le juste juge, la bénédiction écrite dans le livre de la loi pour ceux qui gardaient les commandements de la loi. Mais
et épouvanté en entendant le Seigneur lorsqu'il était sur la terre. Il ne criera pas, dit le prophète. Et on peut bien imaginer ce que devait être la voix du Seigneur, une voix grave, profonde, qui sortait du fond de lui-même. Et toute empreinte de grâce, tous s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Quelle différence avec le Sinaï. Mes brebis, elles écoutent ma voix. Et aucune brebis n'a été épouvantée ni ébranlée en entendant la voix de Jésus. La lueur de l'Ancien Testament, déjà, un homme au caractère extrêmement trempé, c'est Élie, nous l'avons cité tout à l'heure dans un cas, ne tremble, ne recule pour personne. Il a un caractère de lion, cet homme. Et il entend les montagnes se déchirer, la tempête, cela ne l'impressionne guère. Mais pour le briser, ce n'est pas la voix de tempête qui va produire cet effet en lui. Il entend une voix douce et une voix subtile. Et dès lors, il ne peut plus résister. Il sort de la caverne où il a trouvé refuge et il enveloppe sa tête dans le manteau. C'est la voix douce et subtile qui, bien mieux que la voix fracassante du tonnerre, va opérer dans le cœur d'Élie ce qu'aucun élément ne peut produire. Quelle voix que celle-là, douce, subtile. Jamais homme ne parla comme cet homme. Quelle différence entre la voix de l'Évangile, la voix de la grâce et celle de l'Ancien Testament liée à la loi, qui n'a rien amené à la perfection, qui est un ministère de mort et de condamnation. Personne ne peut subsister devant la sainteté de Dieu et devant la voix qui exprime les droits de cette sainteté. Personne ne peut se tenir devant elle. Même un saint apprend tout ce qu'il est. Daniel et d'autres vont se jeter par terre en entendant cette voix du Seigneur. Mais la voix du Seigneur ne jette personne par terre, mais elle opère dans le cœur un travail qu'aucun autre élément ne peut produire. Nous avons donc l'obscurité, les ténèbres, la tempête, le son de la tempête qui se renforçait, la voix de parole telle que ceux qui l'entendaient prier qu'elle ne fut plus adressée, et ensuite Moïse était épouvanté au point de pouvoir dire « Je suis tout tremblant ». un homme d'une envergure, d'une carrure comme Moïse, un homme d'une grandeur comme la sienne, il est épouvanté, il est tout tremblant. Voilà la loi, le ministère de la loi, ministère de mort et de condamnation. Mais c'est une gloire que celle de la loi. Mais il y a une gloire qui l'emporte de beaucoup, dit l'apôtre. Une gloire qui l'emporte de beaucoup, et elle se lie précisément à la montagne de Sion, à laquelle notre frère nous a rendu attentifs. Nous en disons seulement un mot d'introduction, parce que c'est un sujet très riche, très beau d'ailleurs. Ceux qui veulent se pencher sur cette étude de la montagne de Sion, ils vont découvrir des choses extrêmement précieuses et profitables. Disons tout d'abord que la montagne de Sion tient une grande place dans les pensées de Dieu. Elle se trouve combien de fois dans l'Ancien Testament? Maintenant, ce n'est pas difficile, avec la concordance remarquable que nous possédons, il suffit de pointer les citations et nous en trouvons, si notre mémoire est fidèle, 170 citations dans l'Ancien Testament. C'est la montagne de Dieu, la montagne qu'il a désirée pour en faire son habitation, c'est là qu'il veut sacrer son roi, qu'il veut oindre son roi, c'est là, Sion, qu'il veut placer la couronne royale sur la tête de son fils, et demain, cette colline au nord, au sud-ouest de Jérusalem, jouera le rôle qui lui est dévolu. C'est le nom poétique de Jérusalem. Mais n'anticipons pas, 170 fois, le nom de Sion dans l'Ancien Testament. Combien de fois dans le Nouveau Testament? Cela nous rend attentifs parce qu'elle n'est pas citée beaucoup de fois. Seulement 7 fois. Mais chacune des 7 citations est d'une très grande importance. Nous avons 2 fois dans les Évangiles, nous avons 2 fois dans l'Épître aux Romains, 1 fois dans l'Épître de Pierre, 1 fois dans l'Épître aux Hébreux, ça fait 6, et ensuite 1 fois dans Apocalypse 14, lorsque le Messie, le roi d'Israël, le Christ, apparaîtra avec le résidu fidèle de Juda, les 144 000, sur la montagne de Sion. C'est à partir de cette montagne de Sion que la délivrance sera opérée pour toute la nation, et en commençant par le résidu de Juda, 144 000 avec le Seigneur sur la montagne de Sion. Encore un mot. À partir de quel moment trouvons-nous la mention de Sion? Ça vaut la peine de chercher, vaut la peine de se demander quand est-ce que nous avons une relation faite de Sion. C'est très important. Et nous ne trouvons pas la mention de Sion avant la royauté de David. Jamais nous ne trouvons Sion auparavant. C'est la forteresse tenue par les Jébusiens et jamais personne n'a pu s'en emparer. Dans Juge 2, nous lisons que les fils de Benjamin ne dépossédèrent pas le Jébusien habitant de Jérusalem. Jébus, Jérusalem, Sion, c'est le même endroit. Alors, comment se fait-il que ces combattants si extraordinaires, nous savons que les fils de Benjamin étaient constitués de troupes valeureuses et d'un courage à toute épreuve. Dans le premier livre des Chroniques au chapitre 12, on voit en même temps que leur courage, leur habileté, leur capacité exceptionnelle, ils ne manquaient pas un cheveu avec une fronde. Personne ne pouvait tenir devant ces Benjaminites et ils étaient en même temps cruels. On connaît bien leur histoire. Et ils n'ont jamais pu s'emparer de la forteresse de Jébus. Au jour de David, ils s'approchent. Vient d'être établi roi de Samuel 5, il vient d'être établi roi, un chronique 16, vous connaissez bien tous cette histoire, mais nous la rappelons deux mots, et David s'approche de cette forteresse. Elle est tellement réputée imprenable que les Jébusiens disent à David en se moquant de lui, « David, écoute, tu te présentes ici, jamais personne n'a pu s'emparer de notre citadelle. Les boiteux et les aveugles suffiront pour te repousser. » David va avoir une parole très regrettable à cette occasion. Il va dire, les boiteux et les aveugles, ils sont haïs de l'âme de David. Nous ne trouvons pas que le Seigneur va haïr les aveugles et les boiteux. Dans le temple, lui, il va les guérir. Parole regrettable de David, citée en passant. Mais avec une poignée d'hommes qui l'entourent, lui, il va s'emparer de la forteresse de Sion. De la forteresse de Jébus. Nous lisons cela dans un verset, puisque c'est le début de l'histoire de Sion, et cela vaut la peine de la rattacher à David, car c'est précisément la montagne qui se lie au roi selon la grâce de Dieu. La montagne de la grâce liée à l'établissement du roi selon la grâce de Dieu, après l'histoire de David, après la mise à l'épreuve de l'homme dans le contexte de la royauté, il n'y avait pas d'homme plus impressionnant que Saül, un homme qui avait beaucoup de qualités, qui était grand, qui était beau, qui était courageux. Rien ne manquait selon la chair à Saül. Et en même temps, il était humble, mais entre parenthèses, d'une fausse humilité. C'était déjà un psychologue de l'époque, car il se cache pour se faire valoir davantage, pour qu'on l'appelle et qu'on le cherche. Alors, il était davantage mis en évidence. Il se cachait parmi les bagages lorsqu'il était question de le faire venir pour lui, l'établir comme roi. Dans 2 Samuel 5, nous lisons ce que nous avons ici dans l'Épître aux Hébreux, verset 4. Et David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 40 ans, il régna à Hébron sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Et dès que les 10 tribus viennent pour le sacré roi, et qu'il aura donc la royauté sur tout le peuple, non plus seulement sur la tribu de Juda, mais sur l'ensemble des 10 tribus sur lesquelles Dieu lui donne la royauté, nous lisons, le roi alla avec, au verset 6, avec ses hommes à Jérusalem contre les Jébusiens. Bien le même endroit que nous avons lu dans Juge 2, contre les Jébusiens à Jérusalem, et habitants du pays. Et ils parlèrent à David, disant, tu n'entreras point ici, mais les aveugles et les boiteux te repoussons, pour dire, David n'entrera pas ici. Mais David prit la forteresse de Sion, c'est la ville de David. C'est la ville de David. Alors vous pouvez chercher, chers amis, nous disons cela en terminant, vous pouvez chercher tout ce qui est dit de Sion, c'est une énumération extrêmement belle. Nous résumons rapidement, c'est donc la ville de David, nous venons de le voir. C'est la montagne de la sainteté. J'ai oint mon roi sur Sion, la montagne de ma sainteté. La présence de Dieu avec son caractère toujours bien affirmé. Psaume 2. Elle est belle et élevée. Psaume 48. Elle est la joie de toute la terre. Psaume 48 également. Dieu dit d'elle, c'est la perfection de la beauté. C'est le domicile, la cité de Dieu, dans le psaume 76. Elle ne chancelle pas, elle demeure toujours, au psaume 125. C'est le repos, l'habitation de Dieu, au psaume 132. Elle est l'objet du choix de Dieu et Dieu se repose dans le déploiement de sa grâce en relation avec Sion. Et maintenant, dans notre chapitre, c'est la montagne de la grâce. La première fois, donc, nous répétons que c'est en relation avec David que nous trouvons Sion. C'est au sud-ouest de la ville. C'est le titre de noblesse, c'est le titre poétique de Jérusalem. Et nous terminons cette petite citation, qui n'exclut pas d'autres interventions, et que nous souhaitons d'ailleurs. Dans le psaume 132, nous lisons « Car l'Éternel, au verset 13, a choisi Sion. » Il l'a désiré pour être son habitation. C'est ici mon repos à perpétuité. C'est-à-dire, dans l'accomplissement de son propos en grâce à l'égard d'Israël, c'est ici mon repos. Dieu se reposera dans son amour, dans l'accomplissement de toutes les promesses qu'il a faites à ce peuple. Mais ce n'est qu'une image, ce n'est qu'une illustration du repos de Dieu auquel nous avons déjà part et que nous allons connaître, dont nous allons jouir en plénitude tout à l'heure.
Le nom de cette montagne n'est cité qu'en 2 Samuel 5, pour la première fois. Mais la pensée est citée tout à fait au début de l'histoire du peuple, lorsqu'il est sorti d'Égypte. Et c'est bien important à marquer. Nous savons que le peuple n'est vu comme le peuple de Dieu qu'après la rédemption, c'est-à-dire après la sortie d'Égypte, à main forte et à bras étendus. C'est le cantique de la délivrance d'Exode 15, qui nous donne en pensée ce qu'était le propos éternel de Dieu, c'est-à-dire d'habiter au milieu de son peuple sur la propre montagne de son héritage. Exode 15, verset 13, « Tu as conduit par ta bonté ce peuple que tu as racheté, tu l'as guidé par ta force jusqu'à la demeure de ta sainteté. » Verset 17, « Tu les introduiras et tu les planteras sur la montagne de ton héritage, le lieu que tu as préparé pour ton habitation, ô éternel, le sanctuaire, ô Seigneur, que tes mains ont établi. » C'est exactement la pensée du psaume 132, notre cher frère vient de rappeler. Et c'est pour nous bien important de réaliser que cette pensée de Dieu, déclarée pour la foi, probablement bien peu d'Israélites l'ont comprise à ce moment-là, est liée à la rédemption, c'est-à-dire pour nous, au résultat de l'œuvre de Christ. Nous habiterons au ciel, c'est pour nous la vraie montagne de la grâce, parce que Christ est mort pour nous. D'un autre côté, Dieu hérite dans son peuple de sa propre montagne. C'est la même pensée qu'on trouve en Éphésiens 1 pour nous. C'est l'héritage de Dieu dans les saints. Point de vue géographique, pour bien placer les choses, nous savons que la montagne de Sion se trouve à l'ouest du mont de Morija, séparée de celle-ci par le Tyropéon, c'est-à-dire la vallée des fromagers. Au sud, ces deux montagnes sont limitées par le gué Hinnom. C'est une toute petite rivière qui tombe d'ailleurs dans le torrent du Cédron, toujours dirigée vers le nord, de sorte que la parole prend cette vallée, qui n'est jamais éclairée par le soleil, comme image du jugement. Géhenne, gué Hinnom, la Géhenne découle du gué Hinnom. Ces deux montagnes qui se trouvent donc à l'ouest du torrent du Cédron ou de la vallée de Josaphat, où un jour Christ exercera son jugement contre les nations, se trouvent de l'autre côté par rapport au torrent du Cédron, par rapport aux deux autres montagnes dont la parole nous parle à Jérusalem, qui est d'un côté le mont des Oliviers, et sur les pentes du mont des Oliviers qui sont tournées vers Jérusalem se trouvait le jardin de Gethsémané, où le Seigneur Jésus a exprimé la prière à son Père le soir même avant qu'il soit livré. Et tout à fait au sud de l'autre côté du torrent du Cédron, c'est-à-dire au sud du mont des Oliviers, se trouve la montagne de la corruption. Je pense que c'est une montagne qui est distincte, en tout cas géographiquement on la voit facilement, elle est distincte de la montagne des Oliviers. Cette montagne a une triste réputation puisque c'est sur celle-ci que Salomon a offert de l'encens aux faux dieux. C'est la montagne de corruption. Les deux montagnes de Sion et de Morija, en fait, ont un même sens spirituel. Elles sont quelquefois distinguées. C'est d'un côté la montagne du vrai David, c'est-à-dire du roi rejeté. C'est le lieu où Abraham a offert son fils Isaac. C'est le lieu où David, prenant cette place de celui qui intercède envers le peuple qu'il avait lui-même tristement emmené dans le désordre et sous le jugement, intercède et offre le sacrifice dans l'air dormant le Jébusien. Et puis c'est là que sera plus tard bâti le temple. La parole est tout à fait claire. Salomon reçoit l'instruction de bâtir le temple sur cette montagne même, et c'est à proximité de cette montagne que la croix de notre Seigneur Jésus sera élevée lorsqu'il s'offrira lui-même en sacrifice. Cette montagne est une montagne qui peut être vue, la montagne de Sion. Mais ici, pour nous, c'est une image des choses célestes, des choses qu'on saisit par la foi. C'est la grande différence entre la montagne qui pouvait être touchée et le symbole de la montagne de Sion qui, pour nous, n'est pas touchée. Tout ce qui est saisi maintenant, elle est par la foi. La grande pensée de la dispensation actuelle, c'est que nous comprenons, nous saisissons, nous recevons par la foi sans voir. Plus tard, le résidu, symbolisé dans Thomas, le disciple qui doutait en Jean 20, bienheureux celui qui a vu et qui a cru, bienheureux celui qui a vu, qui n'a pas vu et qui a cru quand même, qui ne touche pas, touche, avance ton doigt. Le résidu sera à la fin celui qui sera placé pratiquement devant Christ, devant les souffrances de celui qui s'est livré pour le peuple. Il y a maintenant, pour nous, tout est saisi par la foi. Rien ne peut être vu, mais les choses sont tout aussi réelles, tout aussi proches, tout aussi puissantes que si nous pouvions les toucher.
Peut-être présenter un petit détail. Pourquoi David, comme premier acte public, en relation avec la royauté qu'il exerce maintenant sur tout le peuple, pourquoi David se dirige-t-il vers cette forteresse pour la prendre? C'est le premier objectif qu'il poursuit. Qui le lui a dit? Qui lui a indiqué que c'était maintenant une chose que l'Éternel attendait de lui, de s'emparer de cette forteresse imprenable jusque-là, même par les combattants les plus valeureux? Eh bien, David l'a appris dans la parole de Dieu. Et nous lisons, il ne faut pas passer outre des généalogies que Dieu nous donne, par exemple, dans le premier livre des Chroniques, car il y a de véritables perles que Dieu y a cachées et que nous découvrons avec bonheur, avec profit, quand nous prenons la peine de lire attentivement. Et vous lisez dans 1 Chronique 9 un petit secret qui nous révèle les motifs, qui nous révèle le motif de la décision de David de s'emparer de Jésus, des Jébusiens. Comment, pourquoi il le fait? Quel a été, qui lui a suggéré cette idée? Il faut d'abord se rappeler qu'il y a une dizaine de psaumes écrits par les fils de Corée. Et dans 3 psaumes écrits par eux, nous avons la mention de Sion. Nous les citons rapidement, c'est le psaume 48, où les fils de Corée, nous connaissons bien leur histoire, disent « L'Éternel est grand et fort, digne de louange dans la ville de notre Dieu. Belle dans sa montagne sainte, belle dans son élévation, la joie de toute la terre est la montagne de Sion, aux côtés du nord, la ville du grand roi. Belle dans son élévation, la montagne de Sion. » Voilà une appréciation que les fils de Corée nous donnent par l'Esprit de Dieu sur ce que cette montagne est pour le cœur de Dieu. Au côté du nord, c'est-à-dire la ville se trouvant au nord. Notre cher a rappelé que Sion se trouve donc au sud-ouest de la ville est au nord, c'est donc le sens qu'il faut retenir dans le psaume 48, mais elle est belle dans son élévation. Dans le psaume 84, autre psaume des fils de Corée, nous avons aussi chez eux une mention, elle sera répétée 3 fois pour en souligner l'importance. Nous avons dans le psaume 84, passant par la vallée de Baca, une vallée obscure, l'image de la discipline dont nous avons parlé cet après-midi dans Hébreux 12, les peines, les souffrances, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lumière, il n'y a que de la morosité dans cette vallée. Les voyageurs qui s'y sont trouvés disent « On éprouve qu'un seul désir, c'est celui de se hâter, de quitter ce lieu que l'on sent inhospitalier. » Vallée de Baca, vallée de larmes. Passant pourtant par la vallée de Baca, ils en font une fontaine. Et la pluie, la cour de bénédiction. Si Dieu nous éprouve, si Dieu nous châtie, c'est pour notre bien. Et il veut nous faire du bien. La pluie est une image de la bénédiction que le croyant trouve dans le chemin de l'épreuve. Il n'y aurait pas de croyant plus malheureux, disait un homme de Dieu, que celui qui n'aurait pas connu d'épreuve. Impossible alors de découvrir toutes les ressources du cœur de Dieu en faveur de ceux qui souffrent, quelque manière que ce soit, car Dieu n'est jamais dépassé par nos circonstances. Donc passant par la vallée de Baca, qu'arrive-t-il? Il marche de force en force jusqu'à ce qu'il paraisse devant Dieu en Sion. C'est la fin de la course, c'est la fin des épreuves, c'est la fin de tout ce qui est lié à la terre. Il marche, non pas de faiblesse en faiblesse dans cette montagne, dans cette vallée où il pleure, mais pourtant de force en force. Ma puissance s'accomplit dans l'infirmité. Paul avait sans doute pleuré sur cette écharpe. Il avait supplié le Seigneur 3 fois de la lui enlever. Mais ma puissance, Paul, s'accomplit dans l'infirmité. Il marche de force en force jusqu'à ce qu'il paraisse en Sion. Sion, c'est le couronnement de toute la pensée de Dieu, de leurs espérances. Vous voyez ? Belle dans son élévation, et puis elle est là comme le but vers lequel il marche. 84, on a encore une mention dans le psaume 87, ça fait donc la 3e fois que les fils de Corée nous parlent de cette montagne. Et là, vous savez bien qu'il s'agit de ceux qui seront sur cette montagne, établis pour toujours dans ce lieu de sécurité, où la grâce de Dieu sera déployée aux yeux de tous, et de Sion au verset 5, il sera dit « Celui-ci et celui-là sont nés en elle », c'est-à-dire sont nés sur ce terrain de la grâce. S'ils sont là à Sion, c'est bien par un effet de la grâce de Dieu qui les a fait naître, nés de nouveau, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Celui-là, celui-ci et celui-là sont nés en elle. Eh bien voilà, chers amis, 3 citations des fils de Corée. Et David devait bien les connaître, car nous lisons dans 1 Chronique 9 ceci, avec la mention de Samuel, chapitre 9, pour ne pas nous allonger, verset 19. Shalom, fils de Corée, fils des Biasaph, fils de Corée, et ses frères, les Corites. Pas de doute, ce sont les enfants, les descendants de Corée, qui ont donc écrit, dont plusieurs d'entre eux ont écrit des psaumes, notamment une dizaine de psaumes, dont nous venons d'en citer 3 où il est question de Sion. Et plus loin, vous avez tous ceux-là, au verset 22, tous ceux qui précèdent, et de cette famille des Corites, tous ceux-là choisis pour portier des seuils étaient 212. Ils furent enregistrés par généalogie dans leur village, David et Samuel, le voyant, les avaient établis dans leur charge. Donc, la tente était dressée, David et Samuel, qui étaient là, les avaient établis dans cette charge. C'est une tente provisoire, sans doute, mais le voyant, Samuel, celui qui est le porteur de la parole de Dieu, comment ne pas réaliser qu'avec ces hommes de Dieu, ces fils de Corée, qui allaient être dirigés par l'Esprit de Dieu pour nous donner de si belles choses, comment ne pas réaliser ce contact fraternel, spirituel, entre les fils de Corée et Samuel, le voyant, celui à qui l'Éternel faisait connaître ses pensées. Et de là, de Samuel, le voyant, en contact avec ses fils de Corée, c'était tout naturel que David soit au courant, puisque David et Samuel les ont établis dans leur charge. D'où, ayant appris ce que cette montagne était pour le cœur de Dieu, la première disposition de David, lorsqu'il est le roi, c'est de s'emparer de la forteresse.
Puisque nous l'avons entendu en détail, c'est bien David qui en a pris possession le premier, au moment où il a été oint roi. C'est presque tout de suite après la mort de Saül, alors que la guerre a été longue entre les deux maisons, de Saül d'un côté, David de l'autre, que en fait le peuple s'est regroupé autour du roi selon le cœur de Dieu. Et David est venu, en fait il répondait à la pensée de Dieu, il a pris possession de cette montagne. C'est aussi la montagne de la grâce. Et le caractère de grâce est tout à fait clair dans l'histoire du peuple à ce moment-là. Nous savons que le peuple est entré, après le désert, est entré, 40 ans, il a pris possession mal du pays sous Josué, 400 et quelques années, c'était le déclin des juges avec les réveils successifs. À la fin, c'est le début du livre de Samuel qui nous en parle, Gilgal a été remplacé par Bokim, Bokim a été remplacé par l'eau qu'on a répandue dans la présence de Dieu, mais l'histoire du peuple était bien triste à ce moment-là. Le peuple avait abandonné l'Éternel, a même voulu choisir un roi parce qu'il avait rejeté Dieu. Et Dieu le dit à Samuel, ils m'ont rejeté moi. Et on a pris, le peuple a choisi ce roi selon la chair. Mais à ce moment-là, c'était Ichabod qui était écrit sur le front du peuple. La gloire s'en est allée. L'arche prise, le lien entre le peuple et Dieu est pour le moment interrompu. Le peuple est complètement perdu de ce point de vue-là, n'a plus aucune ressource, sauf celle de la grâce. C'est bien lorsque tout est perdu, dans notre état, dans nos voies, dans nos circonstances, dans nos détresses, qu'alors nous sommes entièrement rejetés sur la grâce de Christ. Et David intervient comme le Sauveur, et le lieu sur lequel David se tient, c'est la montagne de la grâce royale. Et c'est bien par là que commence cet accès vers cette succession de choses merveilleuses qui remplissent la fin de ce dernier chapitre, de cette dernière partie d'Hébreux 12. C'est d'un côté, à Horeb, le ministère de la loi, de la condamnation. De l'autre côté, nous entrons maintenant dans les étapes successives du ministère de l'Esprit, des choses qui demeurent, de la gloire et de la grâce. Alors il y a 8 étapes successives. La première session, on en a parlé assez longuement. La deuxième, c'est la Jérusalem céleste. Ensuite, on trouve l'Assemblée universelle des anges, comme on les a appelés les indigènes du ciel. Ensuite, les premiers-nés, dont le nom sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Ensuite, Dieu juge de tous, voilà le sommet. Ensuite, les esprits des justes consommés. Enfin, Jésus, médiateur de la Nouvelle Alliance, et huitièmement, le sang d'aspersion, qui est par le lieu qu'Abel. Tout de suite après Sion, la montagne de la grâce royale, nous entrons donc jusque dans le ciel, par la foi, et nous retrouvons ce qui était déjà l'espérance d'Abraham, ce qu'il voyait, la cité qui a les fondements, de laquelle Dieu est l'architecte et le créateur. Cette cité, eh bien, c'est la Jérusalem céleste. Verset 22. La cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. On voit bien donc l'antitype Jérusalem, Sion sur la terre, pour le peuple terrestre. L'antitype pour le peuple céleste de Dieu, pour ceux qui sont les héritiers du ciel, ceux qui habitent avec Dieu dans le ciel, la Jérusalem céleste. C'est la cité du Dieu vivant. La Jérusalem céleste est ici l'habitation des rachetés. La Nouvelle Jérusalem d'Apocalypse 21, c'est le caractère même des rachetés vus collectivement. Donc nous sommes la Jérusalem, nous habitons la Jérusalem céleste, nous l'habitons par la foi, parce que nous sommes la Nouvelle Jérusalem, l'Église. Chose remarquable, l'Église, vue évidemment dans son ensemble, tous les rachetés s'y trouvent, sans qu'aucun y manque, n'est pas appelée, sauf le cantique 142, l'Église universelle. Et l'expression universelle est employée ici, je crois pour la seule fois, en rapport avec les anges. Il est question. Et puis aussi, les justes consommés, les esprits des justes consommés, qui sont aussi des habitants du ciel par grâce, liés à l'Église, mais distingués d'elle, sont les rachetés de l'Ancien Testament, jusqu'à Jean le Baptiseur. Ceux qui ont été au bénéfice de l'œuvre de Christ avant que Christ s'offre lui-même. On les retrouve, ces deux compagnies de rachetés, ensemble dans les 24 anciens de Apocalypse 4 et 5. Ils sont ici distingués. L'Église d'un côté, l'épouse, la femme de l'agneau, ensuite ceux qui sont au ciel aussi, comme étant à l'abri de l'œuvre de Christ, comme jouissant des privilèges de la maison de Dieu, de cette habitation, cette cité du Dieu vivant, vues ensemble dans les chapitres 4 et 5 de l'Apocalypse, mais distinguées ici entre l'assemblée des premiers-nés et les esprits des justes consommés.
Quelques commentaires sur ce que nous venons d'entendre, et il dit ceci avec l'assemblée universelle, pensant bien qu'il s'agit de la multitude des anges. L'Assemblée universelle. Et c'est une comparaison qui est faite, que l'on peut faire avec tous les états de la Grèce antique. Tous les états de la Grèce antique, c'est le même mot, l'Assemblée universelle, l'Assemblée qui comprend tous les états de la Grèce. Et nous avons ensuite l'expression, au moins une ou quelques âmes à sauver, pour que l'Église soit complète, que le corps de Christ soit terminé et enlevé pour être réuni à la tête, glorifié au ciel, pour former cette plénitude qui remplit tout et en tous Éphésiens 1. Mais les esprits des justes consommés, en nous basant sur les commentateurs qui ne manquent pas de savoir et qui nous ont aidés pour comprendre la parole de Dieu, il s'agit bien des croyants de l'ancienne économie dont le nombre est complet. Mais nous sommes d'abord montés à Dieu, juge de tous. Au-dessus de tout, nous avons Dieu. Nous montons un versant de la montagne, nous arrivons au sommet, à Dieu, dont le caractère est celui d'être juge de tous, qui apprécie toutes choses. Notre Dieu est un juste juge. 1 Samuel 2 nous montre que Dieu pèse justement toutes les actions des hommes. Il emploie un appareil de pesage qui est parfait, qui est fidèle, qui est juste. Dieu ne se laisse pas influencer par aucune considération. Il n'y a pas d'acception de personne et il n'y a pas d'acceptation de présent auprès de lui. Il est juge de tous, quel que soit le rang de quelqu'un, quelle que soit l'économie à laquelle il appartient, c'est Dieu qui juge tous. Et nous redescendons alors l'autre versant de la montagne, nous arrivons aux esprits des justes consommés et à Jésus, le médiateur d'une nouvelle alliance, nous voilà revenus à la base de tout, à Jésus, et alors à l'œuvre qu'il a accomplie, le sang. Donc vous voyez, nous montons un versant, arrivons à Dieu, nous redescendons, les esprits des justes, et tout repose sur Jésus, dont le nom est cité sans doute 9 fois dans cette épître, et chaque fois à point nommé pour souligner un des aspects de la gloire de cette adorable personne.
L'Ancien Testament de la période qui précède l'Église, commencé par Abel, le premier élu qui est entré dans la bénédiction par un crime. Et d'ailleurs, cette liste merveilleuse se termine justement par la citation de son nom. Jusqu'au celui qui a été mis à l'avance par anticipation au bénéfice de l'œuvre de Christ avant que Christ soit offert et que l'Église soit formée sur la terre, ce nombre-là est complet. C'est une différence intéressante et importante par rapport à ce qui aura lieu après l'enlèvement de l'Église. En Apocalypse 5, 6, nous trouvons les âmes qui sont sous l'autel. Leur nombre n'est pas complet. Verset 6, verset 11 du chapitre 6, on leur dit de se reposer jusqu'à ce que, et leurs compagnons d'esclavage et leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux, fussent au complet. Et on les retrouve comme ayant part à la première résurrection, ce qui sera la part commune d'ailleurs, mais à des moments différents, des rachetés de l'Ancien Testament, des rachetés de l'Église et de ceux qui auront part au royaume à venir. On les retrouve en Apocalypse 20, les âmes de ceux qui avaient été, verset 4, qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, ceux qui n'avaient pas rendu hommage à la bête ni à son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils vécurent, régnèrent avec le Christ 1000 ans. C'est certainement une part qui leur est accordée sur la terre pendant le règne millénaire de Christ. La manière dont, selon la sagesse de Dieu, ces rachetés passeront dans l'état éternel, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, ne nous est pas révélée et n'est pas pour nous maintenant un objet de foi. Nous avons suffisamment de choses précises qui nous sont données dans l'Écriture pour ne pas échafauder et laisser vagabonder notre imagination. L'expression des premiers-nés ici, dont les noms sont écrits dans les cieux, est tout à fait remarquable. Le vrai premier-né, c'est Christ. Le premier-né qui sera établi. Et nous nous étions arrêtés avec beaucoup de profit au début de cet épître sur le caractère de Christ comme premier-né. Que tous les anges, quand il a introduit le premier-né dans le monde, habitaient, Hébreux 1:6, il dit que tous les anges de Dieu lui rendent hommage. C'est un des 7 témoignages qui est donné au début de cet épître, au premier chapitre, à la gloire de Christ comme fils de Dieu. Alors que le second chapitre nous la présente sa gloire de fils de l'homme. Il est le premier-né d'entre les morts, c'est sa seconde primauté, afin qu'en toute chose il tienne lui la première place. Il est le premier-né de toute la création, c'est son caractère de primauté absolue dans les choses créées, c'est le premier domaine, le domaine des choses créées, et en même temps, par la mort et en résurrection, il est le premier-né dans la seconde création, la nouvelle. Nous sommes premiers-nés comme prémices des créatures de Dieu dans une place d'honneur qui nous est accordée. Mais Christ, dans sa position de premier-né, sa position est toujours soigneusement distinguée. Rappelons-nous toujours qu'il ne parle jamais de notre Père, mon Père, votre Père, mon Dieu, votre Dieu. Il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Les Moraves ont appelé le Seigneur Jésus leur frère, nous n'avons pas à le faire. Il est le premier-né entre plusieurs frères. Voilà la pensée éternelle de Dieu dans son conseil de Romains 8, 29, probablement.
127.